Père Saint-Amour, nous apporter la parole de ce matin.
C'est notre dernier dimanche où on va regarder les psaumes pour cette année. Donc, on a gardé le plus beau pour la fin. pas le plus beau prédicateur, le plus beau psaume, d'après moi, mais c'est un des plus beaux. C'est le psaume 16. Vous pouvez tourner tout de suite si vous voulez dans le psaume 16. Mais avant de le lire, j'aimerais partager avec vous un souvenir très vivace de mon adolescence. C'était en 1965 ou 66. J'avais 13 ou 14 ans. Okay? Donc, pour ceux qui sont en train de calculer, arrêtez, j'ai 73 ans. Et c'était l'été, j'étais dans mon bungalow avec mes parents, bien sûr, à Sainte-Rose, à Laval. Et chaque été, mon cousin venait, il venait de New York. Et on avait toujours beaucoup de plaisir ensemble. Et cet été-là, les Rolling Stones avaient sorti un album dans lequel se trouvait la chanson « Satisfaction ». Satisfaction, mais en réalité, c'est « I can't » dans ce chant. Mick Jagger chantait « I can't get no satisfaction ». Je ne peux pas trouver la satisfaction. And I try, and I try, and I try. Ils essayaient de trouver la satisfaction, mais ils ne la trouvaient pas. Les boomers parmi nous se souviennent peut-être de ça. Qui se souvient de ce chant-là? Ah, quelques-uns. Ah, oui, c'est bon. En passant, le magazine Rolling Stone, le même nom que le groupe, a dit que ça, c'était la deuxième meilleure chanson rock de tous les temps. Juste pour votre information, mais c'est une chanson pessimiste. Et cet été-là, moi, j'avais acheté le 45 tours. Il y a beaucoup qui ne savent pas c'est quoi un 45 tours. Si vous ne savez pas, les jeunes, là, les ados, là, demandez à vos parents. Non, pas vos parents. Ils ne savent pas non plus. Vos grands-parents. C'est ça, hein? OK. En tout cas, on jouait ça, là, à répétition, en boucle. Puis on écoutait ça, puis j'aimais ça, puis mon cousin aimait ça, puis on tripait bien gros. Mais c'était pas tellement à cause des paroles, mais la musique, la guitare, le beat, tout ça, en tout cas, on aimait beaucoup ça. Mais dans ce chant, qui était pas mal dépressif, on peut dire, Mick Jagger exprimait sa frustration parce qu'il n'était pas capable de trouver la satisfaction, la joie, le bonheur. Hein? Et je pense que j'étais pareil comme lui, peut-être au moins jusqu'à l'âge de 25 ans, quand j'ai rencontré le Seigneur. Je chantais ce refrain-là en moi, peut-être pas littéralement, mais je me disais toujours, je ne trouve pas le bonheur, je ne trouve pas la satisfaction, je ne trouve pas qu'est-ce qui peut vraiment étancher ma soif de vivre. J'étais à la recherche de quelque chose pour combler le vide en moi. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Hein? Beaucoup de gens peuvent dire comme Mick Jagger, et il y en a beaucoup d'autres chanteurs qui ont chanté sur le même thème, « Je ne suis pas capable de trouver la satisfaction, la joie de vivre, le bonheur, la joie, si vous voulez. Hein? » Et pourquoi? Parce que beaucoup de gens cherchent dans la mauvaise direction. Et aujourd'hui, le psaume qu'on va regarder, c'est tout à fait le contraire. C'est comme une fenêtre dans le cœur d'un homme, David, qui, lui, a trouvé la joie profonde, la joie durable, parce que sa vie était fondée sur le Seigneur, centrée sur Dieu. Et donc, le psaume qu'on va lire maintenant, c'est un psaume qui reflète la joie, la paix, la satisfaction. Et c'est comme si David, ici, nous enseignait le chemin vers la joie. Pas tellement par l'exhortation, mais par son exemple. Alors, on va lire tout de suite le psaume 16, il y a seulement 11 versets. Ça commence comme ça. « Hymne de David, garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, je ne répands pas leur libation de sang. » Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice, ou ma coupe. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. C'est un merveilleux psaume. Et David débute ce psaume de la joie avec une requête. Et tout le reste du psaume, c'est une célébration. C'est une louange qui monte vers le Seigneur, qui est la source de sa joie. Donc, sa première requête, c'est « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. » Alors, David n'expérimente pas la joie parce que tout va bien dans sa vie, tout marche comme sur des roulettes. Ce n'est pas pour ça qu'il est dans la joie. Ce n'est pas pour ça qu'il loue le Seigneur, qu'il peut dire qu'il exalte de joie. Ce n'est pas parce que tout va bien dans sa vie. C'est facile dans ce temps-là. Mais quand ça va mal, quand on a des épreuves, c'est plus difficile de demeurer dans la joie. Mais David, lui, savait garder sa joie même dans les moments difficiles. Il est en danger, là. On ne sait pas exactement ce qui se passait, mais on a vu, on a étudié dans 2 Samuel, hein, un peu les péripéties de David, et on sait qu'il était souvent pourchassé. Hein. Beaucoup de gens voulaient avoir sa peau. Hein. D'abord, il y a eu Saül, il y a eu des rois étrangers, et même son propre fils Absalom. Et on sait aussi que David a perdu 3 de ses fils. Donc, il n'y a pas eu la vie facile. Mais malgré ça, malgré ces circonstances pénibles, il demeure dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il demande à Dieu de le garder. Hein? Ça, c'est ça. Et parce qu'il se réfugie, hein, en Dieu. Il ne faut pas juste demander à Dieu de le garder passivement, mais il prend refuge. Et ici, le terme « je me réfugie en toi », ça évoque l'image de quelqu'un qui est pris dans une tempête et qui court pour se mettre à l'abri. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Hein? Il se met à pleuvoir. Notre premier réflexe, c'est quoi? C'est de courir vers un abri. Hein? Vous êtes en train de faire du ski dans la montagne, puis là, il y a une avalanche. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez courir, essayer de trouver une place pour vous cacher, un rocher quelconque. Hein? N'importe quoi. Un enfant est dans le parc, puis là, il y a un chien en liberté qui s'en vient vers lui. Un petit enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se réfugier dans les bras de son père. Hein? C'est ça, être un refuge. David, lui, veut se réfugier dans le Seigneur. Je cherche en toi mon refuge. Donc, il est en danger et il demande à Dieu de le garder et il se réfugie en Dieu. Pourquoi? Parce que David avait confiance en Dieu. Ça révèle sa confiance. Hein? Il savait que Dieu était assez puissant pour le garder. Mais pas juste assez fort, assez puissant, mais c'est un Dieu plein d'amour, que Dieu allait lui ouvrir les bras s'il allait se réfugier dans ses bras. Et Dieu est comme ça. Hein? Des fois, on imagine Dieu comme ça, là. Puis que Dieu il est comme une police qui nous guette pour voir qu'est-ce qu'on va faire de pas correct, ou nous taper sur les doigts. Mais Dieu n'a pas les bras comme ça. Il a les bras comme ça. Il veut nous accueillir. En tout temps, dans n'importe quelle situation, n'importe quelle difficulté, on peut chercher notre refuge dans le Seigneur. Peut-être même qu'on a péché, on a fait quelque chose qu'on regrette, puis là, on s'imagine qu'il faut rester loin du Seigneur parce qu'il faut se racheter. Non, Christ a déjà payé pour notre péché. Hein? Alors, tout ce qu'on peut faire, c'est se réfugier dans ses bras de miséricorde et lui demander pardon. Hein? Et on sait que dans la vie, je n'ai pas besoin de vous le dire, la vie n'est pas toujours facile. Hein? Ce n'est pas un lit de rose, ce n'est pas un long fleuve tranquille, comme dirait le poète. Ou l'écrivain, je ne sais plus qui a dit ça, là, que la vie, c'est un long fleuve tranquille, mais ce n'est pas si tranquille que ça, des fois. Hein? Des fois, il y a la tempête. C'est rock'n'roll. Hein? Donc, si on attend qu'il n'y ait plus de problèmes, plus d'adversité, de contrariété dans notre vie pour expérimenter la joie du Seigneur, ben, on va attendre longtemps. Hein? Parce qu'il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des nouvelles épreuves qui arrivent. On résout un problème, puis hop, qu'est-ce qui arrive? Un autre qui se présente. Hein? On ne trouvera jamais la joie, la satisfaction quand on n'aura plus de problème. Oui, quand on n'aura plus, ça va arriver un jour quand on va être au ciel. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'on n'ait plus jamais de difficultés pendant qu'on est sur la terre. On peut se réjouir, comme David, au sein des problèmes, au sein des difficultés. Et des fois, ce n'est pas des grosses affaires qui découragent les gens, qui nous font perdre notre joie. Des fois, c'est juste des petites choses, des petites contrariétés de la vie. Des fois, c'est juste d'être pris dans le trafic, des banalités comme ça, qui nous font perdre notre joie. Hein? Mais en tout moment, on peut se réfugier dans le Seigneur, même quand on est pris dans le trafic. Parce que les dangers qui nous menacent, qui nous guettent, c'est pas toujours des dangers extérieurs. Souvent, c'est intérieur. Et on a besoin de se réfugier dans le Seigneur parce qu'il y a des ennemis de notre âme qui nous en veulent, hein? Qui nous attaquent. Dans Éphésiens 6, ça dit « On lutte pas contre la chair et le sang, hein? Mais contre les autorités dans le ciel, les choses spirituelles, les démons, hein? Les réalités spirituelles mauvaises. Hein? Notre combat est spirituel et on a besoin de se réfugier dans le Seigneur. » Satan, c'est l'ennemi de nos âmes. Un lion qui rugit, il veut nous dévorer. Hein? Ça, c'est une attaque spirituelle. Et on doit se réfugier dans le Seigneur dans ce temps-là. Comment? En lui résistant. Comment? Avec une foi ferme. Et cette foi ferme-là s'exprime quand on cherche notre refuge dans le Seigneur. Et chercher notre refuge dans le Seigneur, c'est souvent s'approprier ses promesses, hein. Se rappeler une promesse du Seigneur lorsqu'on est tenté, de se décourager. On a besoin de demander au Seigneur, « Garde-moi, Seigneur. » C'est la même prière que David. À chaque jour, on devrait prier ça. « Seigneur, garde-moi. Garde-moi aujourd'hui, parce que là, aujourd'hui, là, j'ai telle personne à rencontrer, puis ça ne me tente pas. J'ai des problèmes avec elle, c'est pas facile. » Ou « Seigneur, garde-moi aujourd'hui, parce que je suis découragé. » Garde-moi, là, je ne sais pas comment on va arriver à la fin du mois, là. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi du découragement. Garde-moi de la peur. Garde-moi de l'orgueil. Garde-moi de l'égoïsme. Hein? Garde-moi de me plaindre et de murmurer. Tu sais comment est-ce que j'ai tendance à faire ça. Garde-moi, Seigneur. Hein? Voyez-vous l'idée, là, de se réfugier dans le Seigneur. Ensuite, au verset 2, on continue. David dit, « Je dis à l'Éternel... « Tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. » Donc, il déclare deux choses importantes ici. Deux choses primordiales pour quiconque veut faire l'expérience d'une joie profonde et durable. Hein? Premièrement, « Tu es mon Seigneur. Hein? » C'est l'équivalent de dire « Tu es mon maître, tu es mon boss. Moi, je suis ton serviteur. Je vais t'écouter. Dis-moi ce que je dois faire. Hein? » Et je cherche conseil dans sa parole. Je me soumets à l'autorité de Dieu. C'est ce que David est en train de dire là. Il proclame sa soumission à Dieu. David avait compris que la joie, la satisfaction, le bonheur, ça passe par l'obéissance à Dieu. Hein? Il y a des gens qui disent, vous avez probablement entendu ça, que Dieu n'est pas intéressé à notre bonheur. Il veut notre sanctification. Mais moi, je pense que c'est pas juste. C'est pas vrai, ça. Dieu, il veut notre bonheur. Ça, pour centrer ça dans la tête, vous allez regarder dans la Bible, partout, vous allez voir, regardez dans Deutéronome chapitre 4, là, juste pour le fun, là, chez vous, on n'a pas le temps de lire tout ça, mais combien de fois Dieu dit, je vous ai donné ces commandements afin que tu sois heureux. Je pense répéter 3 ou 4 fois, afin que tu sois heureux. Et Dieu dit à Moïse, ah, si mon peuple avait toujours ses bonnes dispositions, parce que là, le peuple venait de dire, on va garder ses commandements, on va faire tout ce qu'il va nous dire de faire. Dieu dit, si mon peuple avait toujours ses bonnes dispositions, son bonheur, hein, sera comme un fleuve. Et on voit ça partout dans les Écritures, que Dieu veut notre bonheur. Mais Dieu veut notre bonheur à travers la sainteté. Hein? Il nous a donné ses commandements, pas pour que ça soit pénible pour nous autres, pas pour nous écraser avec ça, pas pour nous rendre la vie difficile ou pénible, mais au contraire, pour qu'on puisse mieux jouir de la vie. Hein? Parce que c'est en suivant les préceptes divins, en obéissant au commandement de Dieu, qu'on trouve la satisfaction, le bonheur, la joie. Appelez ça comme vous voulez. Hein? Donc, on peut dire que la sainteté et le bonheur, ça va ensemble. On ne peut pas les séparer. Hein? On ne peut pas être saint, marcher dans les voies de Dieu, puis être malheureux. Ça n'a pas de sens. Proverbe 16 dit, « Celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Hein? » Et celui qui obéit à l'Éternel est heureux aussi. Hein? C'est pas l'obéissance, c'est pas la sainteté qui nous rend malheureux, c'est le péché. Hein? C'est le péché qui empoisonne nos vies. Pas Dieu, mais les faux dieux. Hein? Dieu est un bon maître. Il veut quoi? Notre plus grand bien. Hein? Comme un parent. Pourquoi les parents obligent leurs enfants à faire certaines choses, hein? Comme ranger leur chambre, dire merci, faire leurs devoirs? C'est pas parce qu'ils veulent imposer leur autorité, c'est pas un trip de pouvoir, hein? Non. Et pourquoi les parents interdisent certaines choses à leurs enfants? Hein? C'est parce que c'est pour les empêcher de s'en aller sur une mauvaise voie. Hein? C'est pour leur bien. Quand on interdit ou on oblige nos enfants à faire certaines choses, c'est parce qu'on a en vue leur bonheur. Hein? On veut qu'ils soient des enfants bien élevés, pas parce que, hey, ça nous glorifie, puis on dit, quand j'ai réussi à... Non, c'est parce qu'on sait qu'en élevant nos enfants comme ça, ça va faire des gens équilibrés, heureux dans la vie. Hein? En tout cas, ça va les mettre sur le bon chemin s'ils continuent comme ça, s'ils se tournent vers le Seigneur. Donc, qui est-ce qui est le plus heureux, d'après vous? Un enfant rebelle, qui veut rien savoir de ce que ses parents lui demandent de faire? Ou un enfant soumis à ses parents, parce qu'il aime ses parents et il veut leur faire plaisir? La réponse n'est pas difficile. Hein? Dans Psaume 1, verset 2, ça dit « Qui est heureux? Hein? Celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Hein? » Voyez-vous, le monde il a été plongé dans les ténèbres quand Satan a mis dans la tête de nos premiers parents que Dieu voulait les priver de quelque chose en leur interdisant de manger l'arbre le fruit de l'arbre du bien et du mal. Hein? Et depuis ce jour-là, les gens ont dans la tête que Dieu veut les priver. Hein? Que c'est mieux de s'arranger tout seul. Parce que si on se tourne vers Dieu, vers ses commandements, on va être malheureux. Mais si on se libère du joug de Dieu, ah, là on va expérimenter la vraie vie. Mais ça, c'est le plus grand mensonge, hein? Qui a entraîné le monde dans la perte. Hein? Dieu ne nous a pas donné ses lois pour notre malheur, mais pour notre bonheur. Hein? Encore une fois, au verset 2, David, après avoir dit que Dieu était son Seigneur, il déclare que Dieu est son bien suprême. Hein? Verset 2, « Tu es mon souverain bien. » David avait fait de Dieu non seulement son refuge, ça c'est la première chose qu'on a vue, son maître, son seigneur, mais aussi son trésor, son bien suprême. Faire de Dieu son trésor, ça ne veut pas dire qu'on doit mépriser les bonnes choses de la vie. Hein? Dans la traduction anglaise, ça dit « You are my only good ». C'est comme si on disait « Je n'ai pas d'autre bien que toi sur la terre ». Ça a l'air pas tout à fait exact, hein, parce qu'on a beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses dans nos vies. Hein? On a nos familles, nos enfants, on a toutes sortes de plaisirs que Dieu a semés partout. La terre est remplie de la bonté de Dieu. Il y en a qui aiment les arts, il y en a qui aiment jouer de la musique, il y en a qui aiment aller à la chasse, à la pêche... Il y en a qui aiment courir, il y en a qui aiment bien manger, il y a toutes sortes de plaisirs qu'on peut faire, que Dieu nous a accordés, qui sont tout à fait légitimes. Le plaisir, ça ne vient pas de Satan, hein? Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé les bonnes choses de la vie. et il faut en profiter. Mais le problème, c'est que souvent, on fait de ces choses-là notre Dieu. Hein? Au lieu que ces choses-là nous pointent vers Dieu, elles deviennent notre Dieu. Et c'est là le problème. Notre trésor, ça ne doit pas être notre travail ou notre conjoint ou même nos enfants. Ça ne doit pas être notre réputation, l'argent, notre maison, toutes ces choses-là qui sont des bonnes choses. Mais ces choses-là ne doivent pas être notre trésor. Elles ne doivent pas prendre la place de Dieu. Dans 1 Timothée 6, verset 17, ça dit « Dieu nous donne toutes choses en abondance. » Pourquoi? Pour que nous en jouissions. Dieu prend plaisir à nous voir prendre plaisir à la vie qu'il nous a donnée, hein, aux bonnes choses. J'ai lu l'histoire d'une madame chrétienne qui a eu un rêve. Alors, c'est juste un rêve, là, ça vaut ce que ça vaut, mais l'histoire est bonne. Et dans ce rêve, elle se retrouve dans un building quelconque, et là, elle rentre dans une porte, il y a un bureau, et là, il y a un monsieur qui arrive, très souriant, tout ça. Mais elle reconnaît, je ne sais pas pourquoi, elle reconnaît que c'est Jésus. Hein? Et que là, elle est morte, et qu'elle s'attend à ce que Jésus va passer sa vie en revue. Et qu'elle va devoir rendre compte de sa vie. Et Jésus est tout souriant, et il parle avec elle et dit, « Mais ma fille, dis-moi, est-ce que tu as apprécié la vie que je t'ai donnée? » Oh! Et là, la dame était un peu mal à l'aise, parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas mentir à Jésus, et elle a dit, « ben, ouais, mais... » Il y a telle affaire, elle a commencé à énumérer des choses qu'elle n'aimait pas dans sa vie. Et là, Jésus est devenu un peu triste, et il a dit finalement, ma fille, c'est dommage, mais tu ne peux pas rester ici. Je vais te renvoyer sur la terre, parce que là, tu n'es pas prête encore à jouir du ciel. Il faut que tu apprennes d'abord, il faut que tu retournes sur la terre, pour apprécier la vie sur la terre que je t'ai donnée, puis après ça, tu vas être en mesure d'apprécier beaucoup plus mon ciel. Que là, elle est obligée de revenir sur la terre. Mais ça, c'était juste un rêve qu'elle a fait. Mais elle dit que ça a changé sa vie, sa perspective de la vie. Hein. Elle a commencé à arrêter de se plaindre. Donc, Jacques 1, 17 nous dit, « Toute grâce excellente et tout don parfait nous viennent d'en haut du Père des Lumières. Hein. » Donc, faire de Dieu son trésor. Ça ne veut pas dire de mépriser les choses qu'il nous a données, mais le mettre en premier. Hein. Reconnaître que c'est lui l'auteur, la source de toute bonne chose dans notre vie. Chaque fois que vous avez un plaisir, que ce soit à manger, écouter de la musique, marcher dans la nature, n'importe quoi, ramenez ça à Dieu. Dites, hey, Seigneur, c'est beau ça. Hein? Marchez dans la nature, vous voyez des beaux nuages. Ah, c'est beau ces nuages-là. Mais, hey, merci Seigneur, t'es grand. C'est beau, tu es un artiste, n'importe quoi. Hein? Dieu n'a pas besoin des grandes formules. Juste que votre cœur se réjouisse quand vous mangez ou écoutez de la musique, n'importe quoi. Vous ramenez ça à Dieu, vous présentez ça à Dieu comme une offrande. Et ça fait plaisir au cœur de Dieu. Tout comme un parent aime voir son enfant prendre plaisir dans les choses qu'il lui donne. Hein? Donner un cadeau à votre enfant à Noël, puis il le déballe, puis il le laisse là, il s'en va jouer à d'autres choses, ça fait un petit peu de peine, hein? Mais quand votre enfant apprécie le cadeau, puis il est content parce que c'est vous lui avez donné, il sait que c'est un parent plein d'amour qui a donné ça, ça fait plaisir de voir aussi que notre enfant, il va jouer avec le jouet qu'on lui a acheté. Donc, Dieu, c'est un petit peu la même chose. Bon. On va aller plus vite. Maintenant, au verset 3, une autre chose qu'on va voir... David dit, « Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. » Donc, ici, David continue en affirmant son affection, son amour pour les hommes pieux, les saints. Hein? Nous, on dirait aujourd'hui les chrétiens. Ceux qui, comme lui, aiment Dieu. Lui, il aime Dieu. Dieu, c'est son trésor. Puis, il y a d'autres gens qui ont le même trésor que lui, qui aime Dieu comme lui, alors il dit, je ne peux pas ne pas les aimer. Il aime les gens qui aiment Dieu de la même façon que lui. Et on est appelé non seulement à aimer Dieu, mais à aimer nos frères et sœurs. L'apôtre Jean dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si t'aimes, que tu ne vois pas si tu n'aimes pas tes frères que tu vois? Hein? Et celui qui aime Dieu doit aussi aimer son peuple. Hein? On ne peut pas dire à Dieu, je t'aime Seigneur, mais je n'aime pas ton épouse. Je n'aime pas l'Église. Hein? Moi, je n'aimerais pas ça. Quelqu'un me dirait, Pierre, je t'aime bien, mais ta femme, pff, non. Tu sais, je n'aime pas ta femme. Ça me ferait de la peine. Hein? Je ne voudrais pas être ton ami. Hein? Non. Si tu veux être mon ami, ben, il faut que tu aimes ma femme aussi. Tu sais? C'est vrai, hein? Bon. Alors, c'est la même chose. Dieu nous a commandé d'aimer notre frère. Le peuple de Dieu, c'est aussi une expression de la bonté de Dieu envers nous. Imaginez, là, qu'on... Vous auriez pas on ne se serait pas connus. Hein? Vous n'êtes jamais devenu chrétien. Imaginez ça, c'est ça, le pire, là. Hein? Mais tous ces gens que vous connaissez aujourd'hui, avec qui vous parlez, qui sont vos amis... avec qui vous mangez, qui sont dans votre classe, n'importe quoi. On a une communion fraternelle ensemble comme ça. Hein? Mais tous ces gens-là, vous ne les connaîtriez pas. Ce serait une perte, hein? Mais regardez tout ce qu'on a gagné en devenant chrétien, puis en s'attachant à l'Église de Dieu. On peut tout le monde se rappeler des bons moments qu'on a passés, soit dans cette Église ou dans une autre Église précédente où on venait avant. Tous les bons moments passés avec nos frères et sœurs. Ça, c'est une expression de... la bonté de Dieu. C'est quelque chose que Dieu nous donne, une famille, pour alimenter notre joie. Hein? On a besoin les uns des autres. On ne peut pas vivre la vie chrétienne tout seul, hein? Isolé. On n'est pas fait pour vivre dans l'isolement, mais dans la communion, hein? Les uns avec les autres. Soyons reconnaissants pour l'Église, parce que c'est là qu'on trouve de l'encouragement, des fois du réconfort, une correction, des prières, de l'aide, une écoute. L'Église est précieuse. Apprenons à estimer nos frères et sœurs, à avoir de l'affection pour eux autres. Hein. Ensuite, après avoir exprimé son amour pour son peuple, pour Dieu et son peuple, David exprime maintenant une autre chose, son mépris pour l'idolâtrie. Hein. Au verset 4, il dit, on multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel en aura été là. Alors ici, David exprime son dégoût, son mépris pour les idolâtres, pour l'idolâtrie. Pas les gens eux-mêmes, mais il ne veut pas être ami avec des gens qui adorent de faux dieux. Dans l'Ancien Testament, on interdisait même au sein d'Israël de prononcer le nom des faux dieux. Et si on aime Dieu, on doit se séparer des faux dieux. Pas se séparer... Oui, on doit se séparer du monde, des principes du monde. On ne doit pas être ami avec le monde. Parce que si on est ami du monde, on se rend quoi? Ennemi de Dieu. Donc, il doit y avoir une séparation. Et on peut avoir des amis dans le monde. Ça, c'est pas pareil. On peut avoir des gens avec qui on travaille, qui sont nos amis... Mais on ne doit pas aimer le monde. Hein? Vous comprenez la différence, hein? Donc, il doit y avoir une séparation. Le Seigneur dit, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Donc, pourquoi? Parce que les idoles, c'est les ennemis de Dieu, hein? Et les ennemis de notre joie. Hein? La joie, c'est le fruit de notre attachement à Dieu. Et quand on se détache de Dieu pour s'attacher à des faux dieux, on ne trouve pas la joie. On trouve quoi? On trouve l'amertume, on trouve la déception, la frustration, l'insatisfaction. Il n'y a pas de joie à servir les faux dieux. Au début, ça peut nous sembler attrayant, mais à la longue... on se rend compte que c'est un poison. Ce qu'on pensait qui était bon pour nous, c'est un poison, finalement. Ça conduit à l'insatisfaction, à la misère, et finalement à la destruction. Donc, l'idolâtrie, c'est à mettre de côté. Vous allez se dire, moi, chez nous, j'ai pas de statue, j'ai pas d'idole dans ma chambre, il n'y a pas de problème. Non, mais vous savez bien que l'idolâtrie, c'est pas juste... avoir une représentation physique d'un faux dieu, ce n'est pas une statue qu'on met sur notre tablette, Ça peut être d'autres choses. Hein. Ça peut être une bonne chose dans la société occidentale qu'on met à la place de Dieu. Ça peut être le désir de devenir riche, c'est de l'argent, les biens matériels, ça peut être une maison, ça peut être notre réputation, ça peut être notre carrière, ça peut même être nos enfants, toutes sortes de choses qui peuvent prendre la première place dans notre cœur, la première place qui revient à Dieu. Tim Keller a exprimé ça comme ceci, il a dit, si quelque chose dans votre vie devient plus fondamental que Dieu pour votre bonheur, votre identité, alors c'est une idole. C'est ça. Toute chose qui détrône Dieu dans notre cœur, ça devient une idole. Alors il faut chasser cette idole-là et remettre Dieu sur le trône de notre cœur. Et souvenons-nous de 1 Jean 5, 21, ça finit comme ça. Il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous. On peut dire aussi, Seigneur, garde-moi des idoles. Moi, je vais essayer de me garder, mais aide-moi. Garde-moi des idoles. Aide-moi à les reconnaître dans ma vie, s'il y en a. Regardons maintenant les versets 5, 6 et 7. Là, David dit, « L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. » Voilà, je vais arrêter là. Remarquez ici les mots que David emploie, partage, coupe, calice, ça dépend des traductions. Calice, ça fait plus église catholique, le calice, là, du prêtre, mais ça veut dire une coupe. Une coupe, un héritage délicieux, une belle possession. C'est un langage qui nous rappelle le partage de la terre promise sous Josué. Quand Israël est rentré en terre promise, Dieu a divisé le pays, le territoire, en 12 tribus. 11, parce qu'il y a une tribu qui n'a pas reçu sa part. C'est les Lévites. Mais toutes les autres tribus ont reçu, c'était tiré au sort, une certaine partie du territoire. OK, toi, telle tribu, tu reçois ça, toi, tu prends ça. Chaque tribu avait un territoire qui lui était assigné, qui avait été tiré au sort, sauf la tribu de Lévi. Les Lévites n'avaient pas de territoire. Ils avaient certaines villes, des villes dans les territoires des autres tribus, mais il n'y avait pas de terre qui leur appartenait, parce que leur héritage, leur territoire, leur lot, c'était Dieu lui-même. Quand Dieu parle à Aaron, et le chef de la tribu de Lévi, il dit, « Tu ne posséderas rien dans leur pays. Il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. » Et David emploie ce langage-là pour dire, « Dieu, c'est ma part. » Il ne regarde pas sa royauté ou ses armées, ses épouses, pour dire « ça, c'est un bel héritage ». C'est Dieu qu'il considérait comme étant son héritage. Même si tout allait tout mal dans sa vie, il était content de son héritage. Et ici, David exprime une chose très importante pour garder notre joie dans ce monde difficile. Ça s'appelle le contentement. Il faut être content de notre sort, de notre coupe. Parce que la coupe, ça représente ce que Dieu a versé dans la coupe. Les bénédictions de Dieu, tout ce qui constitue notre vie, notre apparence, nos talents, notre personnalité, toutes ces choses-là, c'est nos forces, nos faiblesses. Ça, c'est notre coupe. Dieu nous a désigné à chacun de nous une vie qu'on doit vivre sans envier la vie de mon voisin. Et c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui trébuchent. Ils ont de la misère à se contenter de ce qu'ils ont et de ce qu'ils sont. Ils voient toujours leur coupe à moitié vide. Puis ils disent, lui, sa coupe est à moitié pleine. Pas juste, moins pleine. Mais vous savez, nous, comme chrétiens, on n'a pas une coupe à moitié vide, puis on n'a pas une coupe à moitié pleine. On a une coupe qui déborde. C'est ça que David dit dans le psaume 23. Et ma coupe déborde. C'est juste qu'on ne le voit pas, hein, parce qu'on est trop occupé à envier parfois les autres, hein, la vie des autres. Mais on doit savoir dire comme David, « Peu importe ce que j'ai reçu, je l'ai reçu de toi, Seigneur. Donc, c'est un trésor. Donc, je suis content. Ça vient de toi, parce que tu m'aimes. Tu m'as signé ça dans ma vie. Tu m'as fait comme ça. Tu m'as fait... » Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne choisit pas dans la vie. Hein. On ne choisit pas notre apparence. On ne choisit pas où on va en être. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas choisir. On ne sait pas si on va être en santé, nos forces, tout ça. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas choisir. On ne choisit pas notre quotient intellectuel. On sait toutes sortes de choses qu'on ne choisit pas, qui nous sont assignées par Dieu. L'apôtre Paul dit, qu'as-tu que tu n'as reçu? Tout ce qu'on a, on l'a reçu de Dieu. Mais il y en a qui vont dire, oui, mais lui, il a reçu plus que moi. Ça ne fait rien. Sois content de ce que toi, tu as reçu. Remercie le Seigneur pour ce que Dieu t'a donné. Hein? David, donc, c'est un homme content. Hein? Hébreu 13, verset 5, il dit, contentez-vous, ça dit, contentez-vous de ce que vous avez. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu est toujours là. Là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle dans le contexte des biens matériels, de l'argent, hein? Parce qu'il venait de parler des riches. Hein? Il dit, contentez-vous de ce que vous avez, parce que moi, je ne vous délaisserai jamais. Hein? Peu importe ce qu'on a reçu, Dieu est à nos côtés. Et Dieu est notre refuge. Et Dieu nous aime. Et Dieu peut nous combler. Hein? Donc, prenons garde d'être mécontents. Moi, je vous partage ça, mais pas parce que moi, j'ai atteint le niveau de David. Je me plains souvent. Je me plains souvent. L'autre fois, j'étais chez Maxi, je pense, puis là, ma femme a dit, « Arrête donc de te plaindre, parce que moi, vous savez, magasiner, c'est pas mon fort. J'ai pas reçu le don de magasiner, puis d'aller dans les magasins. » Ma femme, oui. Ah oui, un peu, juste pour le plaisir. Quand je vais faire le tour des allées, juste pour voir si j'aurais pas besoin de quelque chose. Moi, je dis, ben oui, mais tu sais, là, si t'as besoin de quelque chose, t'as pas besoin, va pas faire le tour, là, on s'en va. Je suis toujours en train de dire, on s'en va-tu, là, t'as-tu fini? Enfin, mais arrête de te plaindre, il y a des gens qui seraient tellement contents d'être à ta place, là, de pouvoir... Oh, pardon, Seigneur, hein? Je pense que je suis pas tout seul, hein, les gars. Bon, OK, bon, OK. Dans 1 Timothée 6, ça dit, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Ah! On dit, pas besoin de chercher les richesses, parce que Paul aussi disait, j'ai appris le contentement. Hein? J'ai appris à vivre dans la pauvreté ou dans la richesse, ça m'importe peu. Peu importe mes circonstances, je suis content. Puis il dit à Timothée, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Le gain? Quel gain? Ben, la satisfaction. Une âme tranquille, paisible, pas tourmentée par l'appât du gain, hein? Une joie profonde, tranquille. Hein? Ça nous évite bien des problèmes. Hein? Dieu se donne lui-même à ses enfants. Hein? Il devrait nous souffrir. On a tout pleinement en lui. Hein? On a tout pleinement en lui. Soyons contents de ce que Dieu a versé dans notre couple. Parce que le contentement, ça nous invite aussi à faire confiance à la providence de Dieu. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Dieu sait par quelles circonstances on doit passer pour notre formation, pour notre sanctification, hein, pour nous amener à une plus grande, plus étroite communion avec lui. Puis c'est pas en murmurant qu'on va changer notre situation de toute façon. Hein. Israël a déjà essayé ça, hein. Vous savez, le peuple d'Israël, il murmurait souvent. Et une bonne fois, Dieu n'a pas aimé ça. Et résultat, il a envoyé le feu dans le camp. Pas un feu de camp, le feu dans le camp. OK, il faut avancer. Alors, pour contrer cette mauvaise attitude, il faut regarder à ce qu'on a. Hein. C'est pour ça ici que David, il dit, un héritage des cieux m'est issu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. Même la nuit, mon cœur m'exhorte. Hein? Je bénis l'Éternel. Donc, au lieu de se plaindre que ça va mal dans sa vie, David loue le Seigneur. C'est ça que ça veut dire, bénir le Seigneur. Hein? Il le loue, il le remercie. Il est plein de gratitude, de reconnaissance envers le Seigneur. Et la louange, la reconnaissance, ça conduit à la joie. Tandis que les plaintes, ça conduit à l'amertume, ça conduit à la tristesse, à l'insatisfaction. Et on devient comme Mick Jagger. Can't get no satisfaction. Mais si on loue le Seigneur, on va être heureux. Il y a un frère qui s'appelle, c'est un moine, David Stendhal-Rast. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est un Allemand. Et il a dit, je ne suis pas reconnaissant parce que je suis heureux. Je suis heureux parce que je suis reconnaissant. Ça a du bon sens, ça. C'est peut-être un catholique, mais c'est bien que ce qu'il dit là. On est heureux quand on est reconnaissant. On n'est pas reconnaissant parce qu'on est heureux. C'est la reconnaissance qui nous rend heureux. Donc, au verset 7, David dit, « Je bénis l'Éternel. » Il faut suivre son exemple. Et dans le psaume 103, il dit, il commence son psaume, c'est un autre psaume de David, « Mon âme bénit l'Éternel. » Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et ça finit par la même chose, « Mon âme bénit l'Éternel. » Mais entre les deux, il invite les anges, ses armées, les œuvres de Dieu à le louer et à bénir Dieu avec lui. Et ensuite, il dit, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » En français courant, ça dit, « Je ne perds pas de vue le Seigneur. » Ça, c'est une expression qui témoigne d'un effort délibéré de David pour orienter son attention vers Dieu. À ma droite, la droite, c'est la place d'honneur. La place d'accessibilité, c'est une position de force aussi, de faveur. Et David mettait Dieu dans sa présence. Dieu essayait de se souvenir que Dieu était là. Dieu est toujours avec nous. Le problème, c'est qu'on l'oublie. Et quand on dit « je mets l'Éternel devant à ma droite », c'est pas que l'Éternel n'était pas là, puis que là, je le prends et je le mets là. Non. C'est par la foi, c'est un regard de foi. Je crois que Dieu est avec moi, il est à ma droite, il veut me protéger, il veut me bénir, et je vais lui faire confiance. Dieu est toujours à nos côtés, mais c'est juste qu'on n'en est pas toujours conscient. Donc la présence de Dieu à nos côtés, ce n'est pas un objectif qu'on essaye d'atteindre par nos efforts ou par notre piété. Mais c'est tout simplement une réalité qu'on reconnaît par la foi. Dieu est avec moi. Donc, je ne vais rien craindre. Chaque jour, qu'est-ce qu'on chante tout le temps? Chaque instant de chaque jour. Dieu, je peux me confier en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est là. Il est là à ma droite. Et si j'ai un problème, je peux prendre sa main. Et il me prend par la main. Il me conduit. Donc, c'est un focus à garder, c'est une discipline à exercer. C'est simple, mais c'est pas facile, parce que souvent on oublie Dieu. Mettre Dieu devant sa face ou l'avoir sous les yeux constamment, ça commence le matin peut-être pour certains qui aiment faire un culte personnel, lire leur Bible le matin. Il y en a que c'est le soir, ça dépend comment vous êtes fait. Donc on commence avec un culte personnel, moi on m'a toujours enseigné ça. Tu te lèves le matin, tu lis ta Bible une demi-heure ou 15 minutes, comme vous voulez. On prie. Après ça, tu t'en vas travailler ou tu t'en vas à l'école, tu t'en vas à tes affaires. Mais souvent, c'est une bonne chose. Très bonne chose, mais souvent, on a lu notre Bible, ça, on met notre Bible là, puis on s'en va. Puis, on oublie Dieu pendant la journée avec toutes les choses qu'on doit faire, le travail, l'école. Dieu, il n'est plus devant nous. Il est encore là, mais c'est qu'on n'est plus conscient qu'il est là. Dieu, il n'est pas resté sur la table avec la Bible. Il est avec nous encore. Sauf qu'on doit le reconnaître. Et je pense à notre frère de Mauricio, la semaine passée, il parlait des prières qu'on lance à Dieu. Des prières éclairs. Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur, t'es grand. Seigneur, merci. Oh Seigneur, aide-moi avec cette personne. Aide-moi à pardonner. Alors, on peut, à la journée longue, lancer des prières comme ça. On s'étendra pas trop longtemps là-dessus. On va aller au verset 11. Là, on arrive, vraiment, plutôt au verset 10. Verset 10. « Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Ah, ça, c'est le cœur de ce psaume. C'est vraiment beau. Et là, ici, David nous fait entrevoir, anticiper la plénitude de joie qu'on va expérimenter pour l'éternité dans la présence de Dieu. Et là, on n'aura pas besoin des yeux de la foi pour le voir. On va le voir face à face. Hein. Sur la nouvelle terre, je ne sais pas comment ça va se passer exactement, mais on va avoir conscience de la présence de Dieu. Il n'y aura plus rien pour nous obstruer la vue. Hein. Il n'y aura plus rien pour nous faire oublier Dieu. Tout va nous faire penser à Dieu. Hein. Et David a cette espérance en lui, hein, que Dieu ne l'abandonnera pas dans le séjour des morts. Que sa joie qu'il expérimente en ce moment, ça va s'amplifier puis ça va se prolonger dans l'au-delà. C'est sûr que dans l'Ancien Testament, les saints de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, n'avaient pas une compréhension aussi claire que nous. Ils ont été révélés par Jésus et la Nouvelle Alliance de la prévie, hein, après la mort, de l'au-delà. Il comprenait peut-être pas exactement, David, quand il parlait comme ça, qu'il allait être préservé de la corruption. Il savait peut-être pas exactement de quoi il parlait, mais il est en train de prophétiser, finalement. Hein. Mais il savait, il y avait cette espérance en lui que cette joie qu'il connaissait, cette communion qu'il avait avec le Seigneur, ça n'allait pas s'arrêter avec la mort. Hein. Ça allait se prolonger dans l'au-delà. Et en réalité, David, c'est une parole prophétique qu'il prononce ici. On n'a pas le temps de voir ça ce matin, mais si vous alliez dans les Actes, au chapitre 2, les versets 25 à 31, là, vous voyez l'apôtre Pierre à son discours de la Pentecôte qui prend exactement ces versets-là pour démontrer aux Juifs que celui qu'ils ont crucifié, c'est lui qui est ressuscité. C'est lui que Dieu a fait sauveur du monde. Celui que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Ce n'était pas possible qu'il reste dans la mort parce qu'il était sans péché, parce qu'il est le Fils de Dieu. Il a accompli exactement ce que David annonçait ici. « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Et c'est ce que Jésus a fait. Il a triomphé de la mort. Il est allé à la croix. Et là, il a été comme notre représentant. Lui, il était sans péché. Et il a subi une mort qu'il ne méritait pas, qui nous revenait. Il a pris le châtiment qui nous revenait. Hein. Et là, sur la croix, en tant que représentant de l'humanité, de tous ceux qui allaient croire en lui, il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le mal. Il a tout vaincu. C'est le grand victorieux. Et Dieu ne pouvait pas le laisser dans la tombe. Il était sans péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus n'avait pas péché. Donc, il est ressuscité comme les prémices de ceux qui allaient croire en lui. Hein? C'est la résurrection de Jésus que David, ici, a annoncé prophétiquement au verset 10. L'apôtre Paul a pris le même passage, un peu moins, et dans sa prédication, dans le chapitre 13 des Actes, à Antioche de Pisidie. Hein? Donc, les joies abondantes, les délices éternels dans la présence de Dieu nous ont été acquises par la mort et la résurrection de Jésus. Et parce qu'on est unis à lui, on va vivre avec lui, on va vivre avec lui sur la nouvelle terre pour l'éternité. Il n'y aura plus de fin à notre joie, il n'y aura plus d'obstacles, hein? On n'aura pas à lutter pour garder notre joie. Ça va être là constamment. Hein? Et David dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Hein? Le sentier de la vie ici, sur cette terre. Parce que David dit, il y a d'abondantes joies devant ta face, on l'a vu. Hein? Quand on vit dans la présence de Dieu, il y a toutes sortes de joies que Dieu nous a données pour cette terre. Mais des délices éternels à ta droite. Ces joies-là vont s'amplifier. Hein? Ça n'aura aucune commune mesure, la joie qu'on va connaître avec le Seigneur. Cette joie que le Seigneur, Jésus, nous a acquis par sa mort et sa résurrection. On n'a pas idée de l'ampleur de cette vie de communion, cette joie profonde qu'on va connaître avec le Seigneur dans l'au-delà. Quand on va mourir, ou et après, le Seigneur va nous ressusciter, ou bien, si le Seigneur revient pendant notre vie, eh bien, on n'aura pas à connaître la corruption, on va monter avec lui, hein? Et on va redescendre sur la terre pour vivre avec lui éternellement. Alors, d'une façon ou d'une autre, on est destiné à la gloire éternelle, à une joie abondante, à une joie inébranlable dans la présence du Seigneur. Donc, en attendant cette joie parfaite, appliquons-nous à vivre dans la satisfaction sur cette terre, dans la joie du Seigneur malgré les obstacles. Donc, ça veut dire, réfugions-nous dans le Seigneur. Faisons du Seigneur notre plus grand bien. Faisons du Seigneur le Seigneur de notre vie. Louons-le, contentons-nous de ce qu'il nous a donné. Et on va expérimenter d'abondantes joies dans sa face, devant sa face, présentement et pour l'éternité, grâce au sacrifice de Jésus-Christ qui nous a rachetés de nos péchés, qui a fait l'expiation de nos péchés pour qu'on puisse être délivré à jamais de l'ennemi et de la mort et connaître une joie éternelle. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.